Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Chapitre 4. De quel livre? Ah, livre d'Esther. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a mis de bonnes choses dans votre cœur. Je relisais ce matin, je revenais là-dessus, et je vais vous demander vraiment d'ouvrir votre cœur, vos oreilles, vous allez vous apercevoir de choses extraordinaires, et c'est pas seulement ce dimanche, dans les dimanches à venir, je sais pas quand, mais certainement courant novembre, je reviendrai sur le livre d'Esther et je vous expliquerai comment. C'est un livre très riche. Chapitre 4. On va lire la totalité du chapitre 4. Vous l'avez trouvé ? Voilà, commence notre lecture. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, donc il faut lire les chapitres précédents, bien sûr, mais je vais y revenir. Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, c'est-à-dire d'exterminer le peuple juif, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine, donc Esther, fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques, que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak, l'eunuque, vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea cet eunuque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, Esther, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, Mardochée, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Alors, je rappelle le contenu du livre d'Esther. Je le place sous un aspect à la fois historique, contextuel sur le plan spirituel, afin que l'on comprenne. Le contenu du livre d'Esther se déroule parmi les Juifs de Babylone, dans la période historique qui se situe entre le chapitre 6, on l'a pas lu, mais c'est ainsi, entre le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre d'Esdras. Donc il faut relire le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, les deux sont unis, et il est là, question, à un moment donné, du retour d'une partie du peuple juif en Israël et à Jérusalem. Les événements qui sont couverts par le livre d'Esther, tout le livre d'Esther, les événements que nous y trouvons vont durer environ 12 ans. Nous, on lit le livre, moi je le lis en même pas 20 minutes. Mais ça a duré 12 ans. Et la datation de cette période s'évalue entre l'an 464 avant Jésus-Christ et ainsi, ce livre nous met face à une réalité, le peuple juif dans une situation difficile, très compliquée. Ils sont dans un pays qui n'est pas le leur, avec des lois qui ne sont pas les leurs. Ils ont été menés donc en déportation. Et le roi de ce pays, le pays de la Perse, c'est le roi Assuérus. Attention, je précise comme ça, vous le saurez. Assuérus, c'est pas en définitive le nom du roi. Assuérus, c'est quelque part le nom générique des souverains qui vont se succéder les uns derrière les autres et qui sont des souverains persans, perses. Par exemple, Pharaon était un nom générique pour ceux de l'Égypte, ou Candace, acte 8, c'était le nom générique pour les reines d'Éthiopie. Mais ils avaient des noms, des prénoms. Et dans le livre d'Esther, ce roi perse, il s'agit certainement de Xerxès Ier, fils de Darius Ier. Alors c'est intéressant parce que quand vous lisez tranquillement la Bible et que vous vous posez, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez le livre du prophète Daniel, vous allez retrouver certains aspects que je souligne à ce moment-là. Le fil conducteur de la présente, étude que l'on retrouve dans ce livre d'Esther, consiste à montrer en quelque sorte une succession de renversements de situations. Et je voudrais ce matin en tirer, donnez-moi un peu de temps, mais je ne vais pas être trop long non plus, mais je voudrais quand même aller jusqu'au bout, d'en tirer des enseignements pour notre foi aujourd'hui. Quand on lit le livre d'Esther, le nom de Dieu y est visiblement absent. Vous pourrez le lire et le relire, vous n'y trouverez pas le nom de Dieu, sous quelque forme que ce soit. Dieu éternel, etc. Cependant, l'action de Dieu, elle y est manifestée derrière des interventions que je vais appeler, parce que c'est ça le thème du livre d'Esther, derrière des actions providentielles, le thème central du livre d'Esther, c'est la providence. Qu'est-ce que la providence ? C'est l'intervention de Dieu qui se sert des circonstances, d'une époque, d'une période, d'hommes et de femmes, pour accomplir son plan et sa volonté. Dans quelques dimanches, j'ouvre une parenthèse, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans quelques dimanches, je reviendrai sur le livre d'Esther en deux parties, et nous mettrons l'accent sur ce fait de la présence de Dieu, je vais en parler un petit peu ce matin, de la présence de Dieu dans son action providentielle, même si son nom n'est pas dans ce livre, au point que le réformateur Luther a dit qu'il fallait le mettre au rang des apocryphes, ça ne tenait qu'à lui. Nous, nous l'avons dans le canon sacré, celui qui a été choisi par Dieu et imposé au cœur des Israélites, et ça nous est remonté. Et nous en parlerons, et nous verrons qu'il y est présent en deux parties. Alors là, j'emploie un mot, mais je vous l'expliquerai en temps et en heure, et certains vont le comprendre, sous forme d'acrostiche. Donc, je ferme la parenthèse. Premièrement, Dieu contrôle toutes choses. Écoutez bien, parce que je suis persuadé que vous allez sortir de ce lieu comme d'habitude d'ailleurs, mais là vraiment, vraiment profondément encouragé. Dieu contrôle toutes choses. Il y a quelques années de cela, alors que j'étais dans le cadre d'une réunion avec toute mon équipe pastorale et des pasteurs à la retraite, l'un des pasteurs à la retraite qui servait à mes côtés, dans une réunion de semaine, a porté la parole de Dieu. J'étais présent. Et à un moment donné, il a prêché effectivement, il a appuyé plus précisément sur cette providence divine, et il a dit ceci, « Mes frères, mes sœurs, nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous nous faisons beaucoup trop de soucis pour notre présent et pour notre avenir. » Et là, on peut se poser la question, vraiment, posons-nous la question, est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu ? Vous remarquerez que l'on a tendance à se débattre dans tous les sens, parfois. On a tendance à réagir. On a tendance à se mettre en peine. Oui ou non, vous et moi. Mais tout est écrit par Dieu. Je ne parle pas du fatalisme. Hein. Non, ça n'existe pas avec Dieu. Mais Dieu a tout prévu. Il a déjà tout noté. Si vous lisez le psaume 139, qui nous parle de l'omniscience de Dieu. Dieu qui connaît tout de votre vie. Non, pas le voyant du coin, pas le médium du coin, ces gens-là trafiquent avec le diable, ce sont des menteurs. Je vous parle de Dieu, pas votre horoscope, ça dit des bêtises. D'ailleurs, prenez un horoscope dans une revue, achetez dans la même semaine une autre revue, une troisième revue, une quatrième revue, vous mettez chacun des horoscopes l'un à côté de l'autre, et comme par hasard, ils ne sont pas d'accord entre eux. L'un va dire, vous allez gagner de l'argent, l'autre va dire, vous allez en perdre. On voit le mensonge, la bêtise, la folie, les erreurs, le diable qui se trompe lui-même, pas Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, je lui dis, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, tant que vous refuserez Jésus-Christ, vous allez tourner en rond. Et va s'installer dans votre cœur l'insatisfaction, le désarroi, le désespoir, parce que si vous comptez sur le monde pour vous apporter de l'espoir, il n'y en a pas. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un peu de musique, il y a un peu de chant, les gens disent, ouais, faisons tourner les serviettes. Non, parce que j'entends comme vous. Je suis dans le monde sans être du monde. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. Oui ou non? Je ne suis pas dans une secte. Je vis ma vie sociale. J'ai les oreilles et les yeux ouverts. Non, ça va un temps. On tourne les serviettes. Bref, mais ça ne va rien changer. Une fois qu'on a tourné les serviettes, et nous avec, on se retrouve avec le même problème. Qu'est-ce que va devenir ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'attend demain? Etc. Avec Dieu, nous savons, quand on est entre ses mains, qui contrôle toutes choses, et ce livre d'Esther nous met en évidence cette réalité. Et à partir du moment où je l'ai lu, que je l'ai relu, que je l'ai médité, c'est pour ça que je vous apporte ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je suis tranquille. Quoi qu'il arrive. Et je me suis donné comme principe, comme, directive dans ma propre vie, c'est de ne plus m'inquiéter de quoi que ce soit, et même pas de l'Église. Je fais mon travail, Dieu fait le sien. Les gens partent, ils vont ailleurs, c'est leur choix. Je fais tout pour les rattraper, ils veulent pas, c'est leur choix. Moi je sais que Dieu a tout prévu pour faire éclater sa gloire, pour continuer à faire son œuvre. À Groyer, même dans une petite ville, c'est comme ça, à Groyer, une ville à la campagne. C'est vrai ou pas les Groyer, toi? C'est pas ça le slogan de la ville de Groyer? Une ville à la campagne. Une ville à la campagne, mais une ville que Dieu aime. Il y a des gens qui courent à droite, à gauche, cherchant des paroles, cherchant des propos qui vont un peu dans leur sens, cherchant des églises parfaites. Alors, je leur souhaite bien du courage. Ça fait 25 ans que je sers Dieu, ça fait plus de 30 ans que je marche avec Dieu, j'ai jamais trouvé d'église parfaite. Pourtant, j'ai servi Dieu dans beaucoup d'églises. J'ai été invité dans beaucoup d'églises, en France, à l'étranger, etc. Jamais. Tous les collègues que j'ai rencontrés m'ont dit, Laurent, dans ton église, comment ça se passe? Je dis, comme chez toi. Le Seigneur contrôle toutes choses. Et j'aime ce verset de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28, que nous connaissons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La plupart des gens traversent donc, je reviens là-dessus si vous me permettez d'insister, la plupart des gens traversent des moments où ils s'interrogent sur le pourquoi, le quand ou le quoi. Pourquoi est-ce arrivé? Quand obtiendrai-je enfin ce que je désire? Que se passe-t-il là dans ma vie? Que se passe-t-il là dans ma famille? Et comme, nous l'avons vu au travers d'un titre d'un film qui est sorti sur nos écrans et autant qu'au cinéma, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je voudrais retourner la question. Qu'est-ce que vous avez permis à Dieu de faire dans votre vie? Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions que j'ai soulignées à l'instant? Il y en a bien d'autres. La liste n'est pas du tout exhaustive. J'ai appris que nous devons parfois accepter de faire confiance à Dieu tout en n'ayant pas toutes les réponses. Je suis convaincu que vous faites comme moi, je prie le Seigneur, par rapport à l'église de Groyer, à ce secteur groyétois, que nous devons atteindre avec l'évangile, et j'aimerais tellement que les choses s'accélèrent. Aille plus vite! Vous aussi? Mais il y a le temps de Dieu. Il faut savoir attendre Dieu, et pas seulement s'attendre à Dieu. Est-ce que vous avez compris la nuance? Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que nos questionnements. Il n'est aucune situation qui ne puisse arranger. Aucun problème n'est trop grand pour Dieu. Il vous aime. Il nous aime plus que vous ne le saurez jamais, plus que vous pouvez même l'imaginer. Il vous aime. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il a de bons projets pour vous. Voilà la vérité sur laquelle vous devez vous appuyer. Dieu est tout-puissant, El Shaddai. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est puissant, alléluia. Ça veut dire, un autre mot, il est omnipotent, il peut tout, il est puissant, il est redoutable. Le diable le sait, les démons le savent, les œuvres des ténèbres le savent. Quand un croyant, quelqu'un qui vraiment a Christ dans son cœur, quelqu'un qui est enraciné en Christ, quelqu'un qui est attaché à l'évangile, quelqu'un qui loue Dieu de tout son cœur, qui donne la première place à Dieu dans sa vie, quand il croise quelqu'un qui vit dans les ténèbres, cette personne, elle tremble. Alors vous l'avez peut-être jamais vécu ça, mais moi je l'ai vécu. Je me souviens aux Antilles, je l'ai peut-être déjà raconté, mais lors des réunions en semaine, le dimanche, il y avait des gens qui rentraient pour les premières fois, c'est normal, c'est l'église, elle est ouverte pour tous, et il y avait des gens qui rentraient, mais chargés, dans le domaine du péché, mais chargés, dans le domaine aussi de trafic occulte, de sorcellerie, de maraboutage, de vaudouisme. Et ces gens étaient possédés de mauvais esprits, au singulier comme au pluriel. Et je les voyais mal, remuer, bouger. Je vous racontais des choses, vous ne les croiriez même pas. Et pourtant, c'est vrai, ça s'est passé, ça s'est réalisé. C'est comme cela. Et quand on priait pour eux, parce qu'ils avaient vraiment envie d'être délivrés, Dieu manifestait sa puissance. Mais les démons, comme on le lit dans l'Évangile, et moi je l'ai vécu ça, ils sortaient en criant, ils sortaient en m'insultant. Ils me résistaient parfois en disant « Tu peux toujours prier, je ne sortirai pas ». Et moi, je revenais au nom de Jésus-Christ. On passait une heure, deux heures, on jeûnait, on priait, et les personnes étaient délivrées. Oui, je l'ai vu. Ce qui est écrit dans l'Évangile, c'est pas seulement pour hier, c'est une réalité pour aujourd'hui. Alors si à Groyer, ça arrivait ce matin, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années de ça, un de mes collègues qui était pasteur dans l'église de Béziers, prêché lors d'une réunion, un dimanche après-midi, réunion d'évangélisation. Et il y avait toujours là le groupe de jeunesse qui, dans cette petite église de Béziers, à l'époque, maintenant elle a déménagé, à l'époque elle était rue de la Rotonde, une rue qui monte comme ça. Moi j'ai connu cette petite assemblée là, rue de la Rotonde à Béziers. Et alors qu'il prêchait, il y avait tous ces jeunes, je le répète, dans toutes les réunions, ils se mettaient, c'est un petit groupe, ils se mettaient ensemble dans un coin de l'église. Et pendant que le collègue prêchait, très souvent, ils parlaient entre eux. Vous voyez, c'est pas bien, hein. Ils rigolaient, voilà, comme ça. Puis un jour, une femme est rentrée. Beaucoup de personnes nouvelles sont venues, se sont converties. Mais là, ce jour-là, il y a eu un moment particulier. Cette femme est rentrée, elle s'est assise devant. Et pendant que le frère prêchait l'évangile, il parlait de la croix, il parlait de la puissance de Christ, il parlait de l'amour de Dieu, il parlait de délivrance, il parlait de salut, il parlait de guérison, il prêchait la croix. Tout à coup, cette femme, elle s'est mise à baver, à crier. Non, ce n'était pas une crise d'épilepsie. C'était vraiment une possession. Elle a pris la chaise sur laquelle elle était assise. Alors, ce n'était pas des chaises comme ça à l'époque, hein. Elle a pris la chaise, elles n'étaient pas accrochées. Elle a pris la chaise sur laquelle elle était assise et elle a commencé à jeter la chaise. Alors les frères de service sécurité ne sont pas restés derrière à tourner en rond. Ils sont venus devant de suite en courant pour maîtriser cette personne. Et le pasteur, le collègue a arrêté de prêcher. Et là, ils se sont mis à prier de suite, là, de suite pour elle, au nom de Jésus-Christ. Et les chrétiens, très ancrés dans le Seigneur, pour beaucoup d'entre eux, se sont mis à prier aussi. Ils ont eu le bon réflexe. Par contre, le temps de prière terminé, cette femme a été délivrée. Elle a été possédée, elle a été délivrée au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, elle était délivrée, mauvais esprit, de possession, et elle s'est convertie. Et quand le pasteur, mon collègue, a levé les yeux, il a regardé, et l'endroit où il y avait le groupe de jeunes était vide. Il a dit, mais... Alors à la fin de la réunion, il est allé voir le service d'accueil derrière, il dit, mais où sont passés les jeunes? Ils m'ont dit, ils sont partis tous en courant. Véridique. Alors après, vous comprenez que mon collègue, et le collègue en question, je vais l'inviter d'ici quelques temps, puisque ça a été un de mes formateurs, c'est le pasteur Charles Legrand, donc, qui est aujourd'hui à la retraite, à Montpellier, et quand il le raconte, il dit, mais ils sont tous partis. Alors il les a pris après entre quatre yeux, vous imaginez. Il leur a dit, ah là, vous rigolez moins, hein. Ils avaient peur, parce qu'il manquait d'ancrage. Dieu peut tout. Il est puissant, redoutable, Dieu est bon. Il est de mon côté, Dieu m'aime. Et le livre d'Esther, c'est Dieu. En définitive, dans le livre d'Esther, on voit Dieu. Dieu, certes, dans l'ombre, mais il agit. Il dirige les cours ou le cours des événements en vue de l'accomplissement de ses desseins éternels. Et ce livre... Et bien par excellence l'illustration de la providence de Dieu. Comment se manifeste cette providence? La première des choses que je remarque au chapitre premier, regardez comment Dieu dirige bien les événements. Mardochée n'est pas encore informé de ce qui va arriver. Ils savent pas, on en est tout au début. Chapitre premier, au verset 12, à un moment donné, le roi Perse. Il demande aux eunuques, à ses serviteurs, d'aller chercher la reine. Au départ, c'est pas Esther, c'est Vasti. Et il y allait la chercher parce que là, il a invité des personnages importants venant de partout. Et alors, il veut que cette reine Vasti vienne pour montrer sa beauté, pour montrer sa grandeur. Et la reine Vasti, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse. Oh, aïe. Surtout quand on sait comment ça se passe. Historiquement, et on a été tous à l'école, au collège, au lycée, etc., on a appris une partie de cette histoire de la Perse, surtout de cet homme, Xerxès, premier, qui a perdu une certaine bataille contre les Grecs. Ça, c'est historique. Mais derrière tout ça, il y a une réalité spirituelle. Les Juifs sont en déportation, et là, il y a cette reine Vasti, et ce refus qu'elle manifeste va la conduire automatiquement à la disgrâce. Alors on peut se dire, mais comment se fait-il qu'elle ait refusé? Parce qu'elle savait très bien, elle connaissait les lois, elle savait très bien qu'elle allait être rejetée. Mais derrière Dieu, c'est lui qui pilote. Quand vous voyez tous ces rois, tous ces présidents, et s'il y en avait ce matin, je m'adresserais à eux directement, avec beaucoup de respect. Mais quand vous les voyez prendre des décisions et dire « moi je décide, moi je fais, moi je réforme, moi », ne vous inquiétez de rien, parce qu'en définitive, c'est Dieu qui pilote derrière. M'entendez ? Même des élections. Oui. Vous dites, mais moi, je n'ai pas voté pour lui. Ça, c'est votre choix. C'est Dieu qui pilote derrière. Parce que les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Lisez la Bible. C'est le journal de demain. C'est la dépêche du midi de demain. Moi, je n'ai pas besoin d'acheter le journal. Hein. Je l'ai déjà. Bien sûr que je me tiens informé. Ce refus va conduire cette femme à la disgrâce. Et je peux faire une application spirituelle en rapport avec Dieu, donc. Oui. Attention, bien sûr, la comparaison a cependant ses limites. Parce que Dieu n'a rien à voir avec l'attitude d'Assuérus, d'Exercès. Ça va de soi. Mais il n'y a pas pire péché que celui qui consiste, si vous me permettez, dans cette application, qui consiste à refuser de répondre à l'invitation du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de Dieu. Ésaïe 30:15, il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que vous recevrez le salut, etc. Mais vous, c'est ça que je suis, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37, Jérusalem, c'est Jésus qui parle ainsi, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Luc chapitre 19, verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Samuel dit à Saül, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. C'est ça littéralement. Oui. Vous rendez compte ce qu'est la désobéissance aux yeux de Dieu? C'est comme si je trafiquais avec les sciences occultes. Et la résistance, ce n'est pas moins résister à Dieu, résister à Christ, résister à son amour, alors qu'il veut nous faire du bien, n'est pas moins que l'idolâtrie. Les théraphimes, bon, ça concerne Israël. Deuxième point, Dieu est fidèle et plein d'amour. Dieu est, le verbe être. Il existe, Dieu. Je ne peux pas vous le dessiner, D'ailleurs, il est impossible de dessiner Dieu. Je ne peux pas vous dessiner Jésus. Il m'est impossible de savoir à quoi ressemblait Jésus. Et après tout, ce n'est pas mon problème. Parce que la Bible dit qu'il n'avait aucun éclat, rien pour attirer le regard. Il était comme un autre juif. À la différence, c'est qu'il y avait en lui ce qui vient du ciel. Il était lui-même le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, Dieu au milieu des hommes. Bientôt Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est bien avec nous, mais c'est mieux en nous. C'est mieux en nous. Dieu est, je ne peux pas le dessiner. Je ne voudrais pas rallonger, mais je voudrais dire quand même ceci. Lorsque je faisais une visite il y a quelques années en arrière, je visitais une dame pour la première fois avec mon épouse, elle s'en souvient, et cette dame nous parle de ses problèmes, de ses difficultés, c'est normal. Et puis nous, ensuite, on va lui parler du secours de l'Éternel. On lui parle de Jésus. Et au moment où on lui parle de Jésus, qu'on évoque qui est Jésus, etc., à la lumière de la parole de Dieu, de l'Évangile, cette femme, elle nous regarde très sérieusement, elle n'était pas encore convertie. C'était la première fois qu'on l'a rencontrée. Elle avait demandé la visite du couple pastoral et on était donc chez elle. Et elle nous dit, « Ah, monsieur le pasteur, c'est merveilleux ce que vous me dites. Parce qu'en plus, eh bien, j'ai derrière moi, vous l'avez remarqué, une représentation de Jésus. » Et alors là, j'étais un petit peu, ça fait quelques années en arrière, ça, un petit peu embêté. Et puis, je voulais pas, vous savez, je voulais pas la brusquer, je voulais pas la blesser. Alors, j'ai réfléchi avant de parler. Ça m'arrive, hein. Hein, Jean. Et là, d'un seul coup, le Seigneur m'a montré ce qu'il fallait dire. Alors, je l'ai dit sous une petite pointe d'humour. Mais elle a compris. Elle n'a pas pris mal la chose. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, ah oui, waouh, mais c'est super. Alors elle est surprise, parce qu'elle n'a pas à faire un curé, elle a à faire un pasteur. Elle sait la différence. J'ai dit, ah, c'est merveilleux, et j'ai pas bien vu, vous pouvez me passer? Oh Dieu soit loué, c'est la première fois que je vois Jésus en photo. Alors, ça peut paraître un peu dur, mais pas du tout. Cette femme, quand j'ai dit ça, elle a été surprise. Elle a dit, pourquoi? Mais j'ai dit, mais écoutez, moi, il m'est impossible de dessiner Jésus. Par contre, il m'est possible de le connaître en regardant la description que la Bible me fait, que l'Évangile me fait de Jésus, mon Sauveur. J'ai dit, madame, la meilleure des photographies, elle est dans l'Évangile. Ça veut rien dire. Quelque représentation que ce soit, ça veut rien dire. Dieu ne peut pas le dessiner. Par contre, on peut le connaître. Dieu est, il est vivant. Jésus est vivant. Amen. Personne ne peut lui échapper, que ce soit le puissant roi de Perse ou le cruel Aman qui veut détruire Israël. Dieu agit. Il prend soin des siens. Alléluia. Il les protège contre leurs ennemis. Alléluia. Il intervient au moment propice pour les délivrer. Alléluia. Au risque peut-être de vous interpeller un peu plus, tant mieux, mais de vous dire, mes frères et sœurs, vous vous êtes peut-être même pas rendu compte de toutes les fois où Dieu vous a secouru sans que vous le sachiez. Un retard d'avion, béni soit Dieu. Parce que celui qui a décollé, le réacteur va s'arrêter. Vous allez dire, mais les autres, ah ben écoutez, je ne sais pas, moi, les choses que je ne peux pas expliquer. Le train qui est en retard, béni soit Dieu. Je ne vais pas dire qu'il a déraillé, mais enfin, il peut y avoir d'autres problèmes. Un retard. Vous avez remarqué, on se met toujours en colère quand on a des retards. Et souvent, moi aussi, je suis un peu comme vous. Et puis, hop, je me ressaisis. Je dis à ma femme, à Pascal, je lui dis, Pascal, mais oui, c'est vrai. C'est peut-être un retard voulu de Dieu. Combien de fois ne nous a-t-il pas secouru? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il intervient au moment propice pour les délivrer. Le Dieu de la Bible ne livre arbitrairement personne aux mains de l'ennemi. Jamais. Le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 5. Pourquoi ? C'est à cause de son péché ? C'est à cause de son incrédulité ? Et cela permet à Satan, 2 Corinthiens chapitre 4, le Dieu de ce siècle, d'aveugler l'intelligence de ce monde ou des hommes. Par contre, quand quelqu'un se convertit, se tourne vers Dieu, quand quelqu'un se repent, passe par la nouvelle naissance, alors, acte 26, verset 18, il est écrit qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qui est beaucoup plus grande. Et même si ce croyant qui est là, dans la réalité de la puissance de Dieu, même s'il doit subir des persécutions, le chrétien sait que Dieu maîtrise parfaitement la situation. Jacques, chapitre 4, verset 6, le chrétien se soumet à Dieu, il résiste au diable avec la foi, et celui-ci, le diable s'enfuit loin de lui. Amen. Il n'y a que dans un cas de désobéissance volontaire et persévérante que l'ennemi peut reprendre certains droits. Éphésiens 4, il nous est dit « ne donnez pas accès au diable ». La situation extrême est exposée dans 1 Timothée chapitre 1 verset 20, j'en parlais vendredi, par rapport à la conscience qui est reliée à la foi, c'est Hyménée et Alexandre qui ont été livrés à Satan. Mais si vous lisez un petit peu avant, il est écrit de ce nombre, ça veut dire qu'il n'était pas que deux à avoir fait naufrage par rapport à la foi et avoir perdu toute conscience, bonne conscience, ils étaient nombreux. Et aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, les derniers temps, ces derniers jours, ces temps difficiles, c'est bien de démarrer avec Dieu, mais c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Il y en a certains qui vivent l'apostasie, le mot est là, l'apostasie, l'abandon de la foi, je me retire de la foi, et je dis toujours j'aime Dieu, c'est impossible d'aimer Dieu si je me retire de la foi, si je me retire de la communion fraternelle, il y a un problème. Le Seigneur nous interpelle pour dire mais je veux être ton Seigneur, ton Maître. Pas seulement ton sauveur. Je me souviens, il y avait des jeunes qui disaient « Jésus est devenu mon sauveur, il est devenu mon sauveur ». J'ai dit « Mais arrête, il est ton sauveur, oui, alors il doit être aussi ton maître ». Ils oubliaient le mot « Seigneur ». Il est mon sauveur et il est mon maître. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit la Bible. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi à la croix du calvaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors oui, heureusement que ce n'est pas le cas de tous ni même de beaucoup d'être comme Hyménée Alexandre. Troisièmement, Dieu cherche la coopération de ses enfants. Dieu va utiliser Esther. Dieu va utiliser Esther pour délivrer Israël. Et le chapitre 4 que nous avons lu, verset 13 et verset 14, il est intéressant, eh bien, ce passage, car Mardochée dit à Esther, Esther, quand bien même tu refuserais de te rendre auprès du roi, de toute manière tu es une juive, il le sait, Aman le sait, et tu périras comme nous. Mais même si nous périssons et que toi tu péris, à un moment donné, Dieu interviendra en faveur de son peuple. Mais c'est aujourd'hui qu'il veut intervenir. Écoutez bien, Dieu aurait pu se passer d'Esther. Dieu peut se passer de moi. J'en suis conscient. Dieu peut se passer de vous. Mais son désir, c'est d'employer Esther. C'est de m'employer, c'est de vous employer. Et alors il va dire, Mardochée, je relis ce verset très fort, qui sait ? Qui sait ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps justement comme celui-ci, verset 14, que tu es parvenu à la royauté ? En définitive, Dieu vraiment pilote toutes choses. C'est clair. Dieu prépare de loin la solution à des problèmes. Oui, mes frères et sœurs, nous on regarde toujours nos problèmes. Est-ce que nous avons assez de foi pour regarder aux solutions que Dieu nous propose ? Dieu a préparé de loin la solution à des problèmes que nous ignorons pour le moment. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain lundi. Non ? Mais Dieu a tout préparé. si vous lui faites confiance, bien sûr. Sinon, vous allez vous débrouiller tout seul. Mais si vous lui faites confiance, il a préparé la solution à tout problème. Nous les ignorons pour le moment, ils n'ont pas encore surgi, mais ils arriveront. Il est aussi important que les chrétiens que nous sommes considèrent que ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce doit rester ou doit devenir un moyen de service. Ma position sociale, quelle est votre position sociale? Vous êtes un directeur d'entreprise, votre position doit être une position déjà spirituelle, vous devez respecter vos employés, vous devez les honorer. Si vous êtes employé dans une entreprise, vous devez respecter et obéir à votre chef d'entreprise. Et quand vous allez servir le Seigneur d'un côté comme de l'autre, dit la Bible, je ne fais que rappeler et paraphraser la parole de Dieu, vous devez tout faire comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Quand j'arrivais dans mon entreprise, j'arrivais de bonne heure le matin, j'avais les clés, je rentrais, je priais pour l'entreprise. Et je demandais à Dieu de bénir mon entreprise. J'ai demandé à Dieu de bénir mon directeur. J'ai demandé à Dieu de bénir mon chef de service. Tous les matins. Et plus je priais pour l'entreprise, plus Dieu bénissait l'entreprise. Au point que le directeur, et après on a su, parce que j'ai rendu témoignage dans des occasions qui m'ont été données, on a su que je priais pour l'entreprise. Et un jour, eh bien, le directeur a réuni tous les employés, on faisait un travail de mise au point par rapport à tous les services, pour savoir où en étaient les chiffres. Il a dit, mais notre entreprise s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui, et il nous a annoncé à tous une augmentation financière. Et moi j'étais là, j'ai dit, béni soit Dieu. Ben, ça vous fait sourire, mais j'étais heureux, parce qu'en même temps, eux ils en profitaient, mais moi j'en profitais. Vous savez, quand le peuple d'Israël est en déportation, dans cette ville de Babylone, en Chaldée, là, dans un endroit ténébreux, dans un endroit difficile, loin de leurs racines spirituelles, Dieu leur dit, alors que la délivrance n'est pas prête d'arriver, parce que la déportation, leur esclavage, va durer 70 ans. Et Dieu leur dit, priez pour la ville dans laquelle vous avez été emmenés en captivité. Pourquoi? Parce que votre prospérité dépend de la sienne. Tous les matins, je prie pour la prospérité de Groyer. Et je remarque que depuis un an que je prie pour la prospérité de Groyer, il y a des choses qui sont en train de changer. Parce que vous priez aussi pour la prospérité de Groyer, non? Mon Dieu. Si c'est pour cela que je suis venu dans cette église, qui sait? Mes frères et sœurs, priez pour votre village. Priez pour votre lieu dit. Priez pour votre hameau, priez pour les fermes qu'il y a autour. Vous allez voir Dieu agir. Dieu contrôle toutes choses. J'arrive petit à petit à la fin du message. Mais Dieu cherche votre coopération par la position sociale, par le fait que j'ai peut-être de l'argent. Ça peut aider pour annoncer l'évangile. Voilà. Le fait que je sois en bonne santé, gloire à Dieu. Je peux aider ceux qui le sont moins, par mes dons, par mes talents. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Qu'as-tu que tu n'es reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il nous faut être attentifs aux occasions de service, accomplir les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tel est l'un des objectifs prioritaires de celui qui est un disciple de Jésus-Christ, te servir. Mais quels sont les hommes et femmes que Dieu emploie comme Esther? Je vais aller très rapidement, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Jean 3:3, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir et entrer dans le royaume de Dieu, ni accomplir les œuvres de Dieu. Ça va ensemble. Qui le Seigneur va employer? Celui ou ceux qui sont obéissants et humbles. Parce que Esther est tout cela. C'est Dieu l'architecte qui dévoile au fur et à mesure à ses serviteurs obéissants les plans de son œuvre. Et il le fait avec moi-même en tant que votre pasteur. Il va se servir, il va employer ceux qui sont disponibles. Acte 9:5, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Telle est la démarche du chrétien qui ne regarde ni à son temps, ni à ses forces pour travailler pour Dieu et pour le salut de ceux qui l'entourent. Qui va-t-il employer? Ceux qui sont fidèles. Proverbe chapitre 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Mais un homme, une femme fidèle, qui la trouvera? C'est ce genre d'homme et de femme que Dieu emploie pour les œuvres qu'il leur a préparé. Et Esther, je l'ai dit tout à l'heure, elle va dire à Mardoché, et il va se faire le porte-parole auprès des Juifs, il va dire, jeûnez pour moi 3 jours, 3 nuits, et moi aussi je vais jeûner, et puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mes frères et sœurs, il faut du courage. Il est important d'agir avec courage, mais dans un esprit de prière et de foi. Afin de ne pas compter sur les seules forces humaines que nous pourrions avoir, il est indispensable de prier pour soi-même, d'être mis au bénéfice de la prière des autres. Venez le mardi soir prier, on prie pour les uns, pour les autres, on prie pour Groyer, on prie pour le Tarn, on prie pour la France, on prie pour le monde entier, on prie pour les malades, et Dieu agit. Il est indispensable de prier pour soi-même aussi dans le secret de sa chambre. Il est important de nous souvenir qu'Esther a aussi eu cette détermination exemplaire, prête à être fidèle jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est la particularité d'une des églises du premier siècle, Apocalypse chapitre 2, d'être fidèle. Parfois jusqu'à la mort, c'est ce que vivent certains chrétiens dans le monde. Et puis je termine. Esther est donc, avec toutes ces caractéristiques que j'ai soulignées, Dieu peut l'utiliser pour le salut des Juifs. Mais en même temps, ma conclusion, c'est de dire, Esther, elle a un caractère de soumission. Obéissance et soumission à Mardoché. Non pas parce que Mardoché est devenu son tuteur, est devenu son père adoptif. Esther, chapitre 2, verset 20, elle était orpheline de père et de mère. Et donc Mardoché, qui est son oncle, va devenir son père, son tuteur. Il l'a adopté. Et elle lui obéit, elle est soumise à lui. Elle l'a été pendant sa jeune enfance. Mais elle continue à l'être. Parce qu'elle sait que Dieu est en train d'utiliser Mardoché autant que Dieu veut l'utiliser elle-même. Et ce matin, pendant que je vous prêche, comme toutes les fois où je prêche, que ce soit un autre serviteur de Dieu, comme ça sera le camp le week-end prochain, eh bien, mes frères et sœurs, il est important de vous dire, mais Dieu me parle. Suis-je dans la soumission? On voit qu'elle est courageuse, elle a la foi, oui, si je dois périr, je périrai, mais je ferai ce que je dois faire. Cette parole d'Esther, c'est pas du fatalisme, mais c'est l'expression d'une foi inébranlable. Si Dieu veut sauver Israël, alors Dieu va me garder et me protéger. Mes frères et sœurs, Dieu nous garde et nous protège parce qu'il veut sauver la France. Normalement, quand je dis ça dans beaucoup d'églises, j'entends des alléluia, parce qu'on est convaincu. Elle s'est approchée de ce roi, lui a, il est écrit, chapitre 5, verset 2, elle trouva grâce auprès de ce roi à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Mes frères et sœurs, la providence divine sait contrôler les circonstances et honorer notre foi. La Bible dit, Proverbe 21, verset 1er, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et l'Éternel l'incline partout où il veut. Je prie pour Monsieur Fita et Dieu l'incline où il veut. Je prie pour la mairie de Groyer. Dieu l'incline où il veut. Moi, je sais que Dieu va ouvrir leur cœur. Je sais que Dieu va ouvrir des portes. Pour que l'évangile soit annoncé plus fortement dans cette pauvre ville et dans ce secteur du Tarn. Alléluia. Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Rien ne se passe en dehors de la sphère de la providence de Dieu. Tous, Vasti, Assuérus, Aman, comme Mardoché et Esther, tous les événements, le banquet royal, la publication, les décrets, le caractère et l'attitude de chacun, la haine vengeresse d'Aman, le courage et la foi d'Esther, tout se meut dans l'atmosphère de cette providence divine. Au départ, on dit, c'est négatif, on passera pas, on n'y arrivera pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh, je suis convaincu Eh oui. Alors pensons à notre propre vie, mes frères et sœurs. Croyons-nous vraiment que Dieu en a dirigé, en dirige et en dirigera les moindres détails? Croyons-nous que Romains 8, 28, c'est pour nous? Alléluia! Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Si oui, rien ne devrait troubler votre paix, rien ne devrait troubler votre confiance, rien ne devrait troubler votre amour, rien ne devrait troubler votre fidélité, rien ne devrait troubler votre témoignage pour le salut des âmes, rien! Ma conclusion est celle-ci, l'histoire d'Esther est une exhortation à ne pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous ne pourrons jamais échapper à la présence de Dieu, ni nous soustraire à sa justice. C'est une exhortation à ne pas douter, à ne pas craindre. Dieu agit en faveur, je l'ai dit, je le répète, de ses enfants, il est assez puissant pour les délivrer. Et oui, c'est une exhortation à ne pas faire sa propre volonté, notre volonté. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Amen. Je m'arrête là. Amen. Même vous qui êtes âgés, Dieu a un plan pour vous. Dans cette église. Dans cette église. Vous qui êtes plus jeunes. Oh les jeunes! Première réunion de jeunesse hier soir. J'ai pas fini, je vais vous bouger un peu plus. Il a un plan pour vous. Oui, vous allez vous marier, je sais, vous me regardez. Je me marie. Alléluia. Le 28 octobre, mariage ici. Amen. Qui c'est qui va se marier? J'ai posé la même question après qu'ils me le disent. Hein. Vous êtes déjà mariés. Hein. Voilà, je l'ai fait exprès, hein, Max et Claude. 60 ans, vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Hein. Merci Seigneur. Ouais, moi, 32 ans. Déjà pas mal aussi. Ouais, merci. Que Dieu te bénisse. Ça m'a fait du bien, ça. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et il le fait, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage, s'il vous plaît. Mais pardonnez-moi, je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît. J'y ai mis tout mon cœur à prêcher la parole. Chaque fois, j'y mets tout mon cœur. Je me prépare dans la prière. Je demande à Dieu de me conduire. Et de me dire, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les Groyétois? Je vous en supplie. Repassez ces choses dans votre cœur. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Repassez-les. Repassez-les. Parce qu'après, on va sortir, on va qu'à tellement d'occupations. Il y a notre vie, il y a nos enfants, il y a notre maison, il y a notre vie professionnelle. Pardonnez, j'insiste un peu. On est d'accord avec ça? Et ça peut absorber ce que j'ai entendu ce matin. Je sais qu'il y a une chose que vous n'oublierez pas, c'est que Dieu contrôle tout. C'est la providence. Si vous avez retenu ça, vous avez retenu déjà l'essentiel. On verra bien d'autres détails par rapport à la providence de Dieu, le fait qu'il est présent dans ce livre, j'ai dit, en deux parties, avec des acrostiches, vous verrez ce que c'est, vous verrez, c'est formidable, c'est un miracle. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis toujours émerveillé après tant d'années. J'ai pas fini de m'émerveiller. Alléluia, oui. J'aimerais qu'on chante ce petit chant, si vous permettez. Compte les bienfaits de Dieu. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ce matin, qu'on doit repasser sur notre cœur. Vraiment, je vous encourage à ne pas oublier tout cela. Parce que vous allez être en paix, tranquille. Et quand il va arriver un problème, vous allez dire, oui, il y a un problème. Il y en aura, hein, c'est normal. C'est la vie, hein, c'est la terre. Vous allez dire, Dieu a déjà prévu la solution. Prévu le moyen de m'en sortir. Le malheur atteint souvent le juste. Connaissez la suite? Mais le Seigneur, l'Éternel, l'en délivre toujours. C'est dans la Bible. Hein. C'est pas loin. Merveilleux cantique. On y va?
Quand le vol de la tempête vient assombrir